Emmanuel Fall, que vous êtes professeur et doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée de ces trois livres. Le premier, Le passeur de Gethsémani, le second, Métamorphose de la finitude, et le troisième qui vient de sortir, Les noces de l'agneau, qui font partie d'un triptyque.
Le premier livre, Le passeur de Gethsémani, qui est un livre autour de l'angoisse et de la mort. Lorsque je l'ai écrit il y a une quinzaine d'années, je vivais une expérience douloureuse, personnelle, du suicide d'un ami très cher et de la mort d'un autre ami, d'un accident de voiture. Et je me suis posé une question en me disant, mais l'angoisse de la mort, en quoi le Christ a partagé cette angoisse? Le passeur de Gethsémani essaie de dire, certes la mort est le premier mot, mais elle n'est pas le dernier mot. C'est pour ça qu'on va passer par la souffrance, et que la souffrance, c'est pas simplement le lieu de la purification, mais c'est le moment où le corps craque. Alors le second livre, Métamorphose à finitude, mon hypothèse dans ce livre consiste à dire, eh bien, pensons une métamorphose de la finitude, une transformation de la finitude, transformation qui soit un acte véritable de renaissance. On ne naît pas dans le monde, mais on fait naître un monde. Eh bien, je crois que c'est ça, la résurrection. De la manière dont nous vivons aujourd'hui dépend la manière dont on vivra notre corps demain. Alors, le troisième ouvrage, Les noces de l'agneau, sur le corps de l'Eucharistie, là encore, il a fallu un long temps. Je dirais que cet ouvrage est peut-être le plus radical. Le plus radical, pourquoi? Parce que lorsqu'il a fallu écrire ce livre sur l'Eucharistie, je me suis posé vraiment la question du statut du corps. Et j'ai vu, en particulier à partir de la théologie, et c'est là où la théologie pose des questions à la philosophie, à tel point que je pense qu'il ne suffit pas de dire comme Urs von Balthasar qu'il faut libérer la philosophie par la théologie, mais libérer la théologie par la philosophie. C'est-à-dire que le philosophe, il a le droit aussi d'avoir une visée théologique. Ça peut marcher dans les deux sens. C'est intéressant de voir que le théologien dit parfois qu'il a une vision philosophique et que le philosophe dit qu'il a une visée théologique. Eh bien, dans ce livre, Les noces de l'agneau, d'une certaine manière, il m'a semblé que la phénoménologie, au regard de la théologie, était une pensée du vécu de la chair, mais qui manquait quelque chose de l'organicité du corps. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire que lorsque le Christ me dit « ceci est mon corps », la question qui se pose consiste à se demander « mais qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce que je mange quand je dis « ceci est mon corps » ? » Et je reçois le corps du Christ, on me dit « le corps du Christ amène ». Je mange quoi? Nous parlions de Nicodème. Comment cet homme peut-il de nouveau entrer dans le ventre de sa mère et naître?
Bien, comment là, est-ce qu'on peut manger le corps du Christ?
Ce sont les pharisiens qui demandent en Jean 6, 53, quel est cet homme qui peut nous donner sa chair à manger? Alors c'est vrai que la théologie a beaucoup travaillé pour expliquer que ce n'était pas un scandale, qu'il ne fallait pas parler de cannibalisme. Et il y a beaucoup d'opérations théologiques qui consistent à réduire le scandale en disant non, ce n'est pas un scandale, c'est du symbolisme, etc. Moi, je crois qu'il faut repartir du scandale. Même si, effectivement, le mot de corps n'a pas le même sens dans la tradition juive que dans la philosophie, alors on invoque toujours ce fait pour dire « bassard, c'est le tout de l'être », pour dire que la vie, c'est le sang, donc c'est le sang, c'est la vie. Donc c'est tout simple. À partir d'une telle conception, on dira tout simplement « quand je communie, je participe à la vie de Dieu ». Oui, mais enfin, c'est quand même « ceci est mon corps ». Et j'entends le mot « corps ». Et les pharisiens demandent quel est cet homme qui donne son corps à manger. Donc mon hypothèse consiste à dire, eh bien, pensons le corps à partir de la tradition aussi, ce qu'est le corps. Et à ce moment-là, pour moi, l'Eucharistie, c'est le moment où le Christ donne sa vie. Mais en donnant sa vie, il donne son corps. Et y compris son corps organique. Un corps organique, c'est fait de quoi? C'est fait de passion, c'est fait de pulsion, c'est fait de digestion, c'est fait de sécrétion. Alors on a un mal fou à penser que le Christ, comme nous, mais c'est ça, le Christ a vraiment vécu ça, et c'est ça que Tertullien a vu, c'est ça qu'Irénée a vu. C'est les premiers pères, ce qu'ils ont vu de façon absolument remarquable, c'est que ce n'était pas un Christos angelos, voilà, hein, c'est un véritable corps. Alors mon hypothèse, c'est que quand on mange le corps du Christ, quand on reçoit le corps du Christ, on reçoit vraiment du corps. Alors, évidemment, la question, c'est le cannibalisme. Vous savez que Chrysostome s'est posé la question, il s'est demandé pourquoi on n'avait pas la langue rougie par le sang. Et même Thomas d'Aquin a dit qu'on n'avait pas la langue rougie par le sang. Bon, c'est dans un 7 contre 1, hein. Mais en disant, on n'a pas la langue rougie par le sang, pour qu'on ne nous prenne pas pour que les chrétiens n'apparaissent pas comme stupides aux yeux des autres. Mais sous-entendu, on mange quand même du vrai corps. Évidemment qu'il faut tenir la permanence des espèces, enfin, que ça reste du pain, ça reste du vin, et c'est absolument fondamental. Mais ce qui me paraît très important, c'est que Ce que va dire la théologie, je pense à une querelle entre Béranger et Lanfranc, une querelle du 9e siècle, elle va dire, bon, peut-être qu'on ne peut pas dire qu'on mange du corps véritable, au sens où ce n'est pas de la viande, mais on mange du véritablement corps. Alors, c'est quoi le véritablement corps? C'est-à-dire qu'on mange, ce qu'on mange de ce corps, c'est ce qui a fait vraiment le corps du Christ. Et qu'est-ce qui fait le corps du Christ? Eh bien, c'est sa dimension, c'est Tertullien qui va parler comme ça, sa dimension pathique, c'est-à-dire le pathos, sa souffrance, tout ce qu'il fut, passion, pulsion. C'est pour ça que dans les Noces de l'agneau, il est beaucoup question de l'animalité. Alors, un petit peu étrange de parler de l'animalité dans un livre de théologie. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup dans la philosophie, mais c'est très important. Non pas que le Christ se soit fait animal, il s'est fait homme, le Conseil des Trullo l'a montré, mais s'il y a en nous une part d'animalité, qui ne vient pas simplement du darwinisme, ce n'est pas mon problème, c'est une question métaphysique. S'il y a en nous une part d'animalité, cette part d'animalité, c'est quoi? Bon, Heidegger dit ça, c'est le district de ce qu'on ne peut plus dire. C'est ce qui est en moi, qui fait ma vie aussi. Ses passions, ses pulsions, ses sécrétions, ses digestions, ses odeurs, ses touchers, tout ça, ça fait ma vie. Je ne peux même pas le dire. Mais je sais que ça constitue mon existence. Et l'animalité, en elle-même, n'est ni bonne ni mauvaise, elle est là. Ce qui est mauvais, ce n'est pas l'animalité, c'est la bestialité. C'est ça le péché. Le péché, c'est la bestialité. Ce qui est dit dans Caïn, dans l'épisode de Caïn et Abel, hein, tu deviendras une bête errant sur la terre, en Genèse 4. Voilà. Donc, l'animal, pour moi, c'est essentiel. Pourquoi? Pas parce que le Christ est fait animal, mais parce que le Christ vient jusqu'à rejoindre cette part en nous d'animalité. Il assume toute l'humanité. Hein. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé, hein, comme dit Grégoire de Nazianze. Donc il assume toute l'humanité et il la transforme. Et alors l'Eucharistie, pour moi, c'est cet acte absolument remarquable, extraordinaire, où Dieu nous rejoint dans cette part d'animalité et aussi la bestialité, c'est-à-dire notre péché, et il vient habiter tout cela et transformer tout cela. Et l'Eucharistie vient transformer l'animalité en humanité dans la filiation. Alors c'est un peu compliqué, mais ça veut dire que certes, nous sommes hommes, mais par l'Eucharistie, nous devenons encore plus hommes. Comme dit Thomas d'Aquin, nous ne sommes pas appelés à dépasser notre état de créature, parce que nous sommes créés. Nous ne sommes pas appelés à devenir des anges, puisque nous sommes des hommes. Donc nous sommes appelés à demeurer toujours plus hommes. C'est une humanité prise dans le Fils, c'est-à-dire dans la filiation. Nous sommes appelés à devenir hommes dans le Fils de l'homme. Donc on peut dire que ce triptyque, ce trajet, est un trajet qui reprend les trois jours de la Passion. C'est pour ça que ça s'appelle un triduum philosophique. Donc l'angoisse, le vendredi saint, la résurrection, le dimanche de Pâques et le jeudi saint, les noces de l'agneau. Et c'est cette vision globale du triduum philosophique qui est absolument essentielle. Avec une question qui demeure, que faisons-nous du péché, bien sûr? Alors je suis en train de penser à un livre qui paraîtrait de ça, l'inquiétude du créé, mais enfin, je n'y suis pas encore, mais c'est absolument essentiel de se demander maintenant en quoi, comment et pourquoi l'homme a-t-il pu et peut-il sortir du monde de Dieu? Je vous dis tout à l'heure, on est dans un seul monde, oui, mais on est capable de sortir de ce monde de Dieu.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Simplement vous remercier donc pour cet entretien, vous dire aussi que ce travail, vous savez, est un travail qui me dépasse et qui nous dépasse, comme nous tous. Hein. Finalement, chacun ne fait que son travail, c'est un service. Mon service d'église, c'est d'enseigner, c'est aussi d'être aujourd'hui à la tête d'une institution. C'est d'abord aussi un service ecclésial, j'ai toujours pensé ainsi. Ce travail philosophique et théologique continue. En espérant que Dieu me donne la grâce, eh bien, de poursuivre.